Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Thérèse d'Esquerou, de François Mauriac. Thérèse d'Esquerou est un des plus célèbres romans de François Mauriac, publié en 1927. Thérèse d'Esquerou présente l'histoire d'une femme qui a tenté d'empoisonner son mari, Bernard, à l'arsenic, mais en vain. Pour éviter que le scandale éclate, son mari, préférant que l'affaire soit étouffée, la disculpe devant le tribunal qui, du coup, prononce un non-lieu. Thérèse n'est donc pas poursuivie par la justice. Et pourtant, tous la savent coupable. Son père, qui est venu la rechercher, son avocat qui l'accompagne, son mari qui l'attend en leur propriété d'Argelouse. Le roman Thérèse d'Esquerou commence alors que le procès de Thérèse prend fin. Le narrateur fait ensuite un retour en arrière pour raconter le parcours de Thérèse, suggérant ce qui l'a amené à essayer d'attenter à la vie de son mari. Thérèse étouffe sous le poids des conventions bourgeoises, du mariage et de la maternité, dans un environnement qui lui semble hostile. Ce roman a été adapté au cinéma en 1962 par Georges Franju et en 2012 par Claude Miller. Son héroïne est inspirée de l'histoire réelle d'Henriette Canali, accusée d'avoir voulu empoisonner son mari, Émile Canali, en 1905. Mauriac avait assisté au procès, et il effectue d'ailleurs cette comparaison dans sa préface quand il mentionne la salle étouffante d'assises. Le nom de d'Esquerou est le pluriel d'un mot du sud-ouest, Caire, parfois écrit Caïrou, qui désigne un tas de pierres, de cailloux, formés à l'extrémité d'un champ par l'épierrage du sol. Ce nom, celui de son mari, l'inscrit dans le matérialisme, dans l'importance accordée à la terre, à la lande et au pain dont la famille tire sa richesse. Avec sa belle voix rauque et comme déchirée, avec son visage d'ascète traversé à la fois d'angoisse et d'ironie, François Mauriac a joué dans le roman, dans l'essai, dans le théâtre et dans le journalisme, et pendant plus d'un demi-siècle un rôle incomparable. François Mauriac est né le 11 octobre 1885, année de la mort de Victor Hugo. Il est le dernier d'une fratrie composée d'une sœur aînée et de trois frères. Son père est un marchand de bois mérin, banquier et propriétaire terrien. Orphelin de père à 20 mois, François Mauriac vit toute son enfance très entouré par une mère très pratiquante, dont il est le fils préféré, et son oncle qui gère toutes les affaires familiales. Son adolescence est marquée par plusieurs lieux girondins qui tous marqueront profondément son œuvre. Gradignan, où sa grand-mère Irma possède le château Lange, les Landes de Gascogne, autour de Langon, et surtout l'été à Saint-Symphorien, tous ces bourgs dominés par la bourgeoisie viticole, ou ayant fait fortune dans l'exploitation forestière, au climat lourd de secrets étouffés qu'il peindra dans la plupart de ses romans. Il est influencé par Paul Claudel, Francis James, Henri de Régnier, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Colette et André Gide, notamment l'immoraliste et les nourritures terrestres qui le marqueront, tous proscrits dans sa famille et chez les pères, finissant ainsi de constituer son corpus littéraire personnel. Il découvre également à cette époque les textes et idées de Maurice Barrès qui marqueront sa jeunesse, ainsi que le Sillon de Marc Sagnier, mouvement catholique ouvriériste dont il se sent proche, mais qui le laisse insatisfait. En 1913, il épouse Jeanne Lafont, fille de polytechnicien. Ils auront quatre enfants. La carrière littéraire de Mauriac est interrompue par la Première Guerre mondiale, durant laquelle il s'engage un temps, bien que réformé de santé précaire, dans un hôpital de la Croix-Rouge, à Salonique, en Grèce. Après la victoire de 1918, il reprend ses activités et publie en 1921 « Préscience », qui le brouille pour longtemps avec la Bonne Société bordelaise, puis, en 1922, « Le baiser aux lépreux ». Mauriac est avant tout occupé par la composition d'une œuvre romanesque, où il se révèle un analyste des passions de l'âme et un pourfendeur de la bourgeoisie provinciale. Génitrix, Le désert de l'amour, Thérèse Esquerou, Le nœud de vipère, Le mystère Frontenac. La plupart de ses romans évoquent le conflit entre la foi et la chair et développent plusieurs images récurrentes comme le désert spirituel que ces personnages doivent traverser. François Mauriac est un catholique inquiet, plus proche de Pascal et de la notion de misère de l'homme sans Dieu que d'une sérénité apportée par la foi. Son œuvre met en évidence en effet les combats qui le déchirent parce que le christianisme ne fait pas sa part à la chair. Le catholicisme condamne en effet les désirs charnels et c'est une des causes du drame de son héroïne, Thérèse d'Esquerou, en lutte entre une exigence de pureté et l'appel des désirs du corps. La qualité de ses romans et de sa poésie lui vaut d'être triomphalement élu à l'Académie française le 1er juin 1933. Tout en poursuivant son œuvre littéraire, il prend part à de nouveaux combats politiques, notamment au moment de la guerre d'Espagne, d'abord en faveur des nationalistes, avant de se ranger, dès le bombardement de Guernica connu, avec les chrétiens de gauche qui s'expriment dans la revue Esprit aux côtés des républicains espagnols. Sous l'occupation, après quelques hésitations devant la Révolution nationale lancée par le maréchal Pétain, il publie en 1941 « La pharisienne », qui peut se lire en creux comme une critique du régime de Vichy. François Mauriac reçoit en 1952 le prix Nobel de littérature. Il soutient un temps Pierre Mendès France sous la IVe République, mais le putsch des généraux à Alger précipite son ralliement sans faille au général de Gaulle sous la Ve République. François Mauriac meurt le 1er septembre 1970 à Paris. Il est ensuite inhumé au cimetière de Vémars, en Val d'Oise. Argelouze est réellement une extrémité de la terre, un de ces lieux au-delà desquels il est impossible d'avancer, ce qu'on appelle ici un quartier. Quelques métairies sans église, ni mairie, ni cimetière, disséminées autour d'un champ de seigle, à 10 kilomètres du bourg de Saint-Clair, auquel le relie une seule route défoncée. Ce chemin plein de d'ornières et de trous se mue au-delà d'Argelouze, en sentier sablonneux, et jusqu'à l'océan. Il n'y a rien que 80 kilomètres de marécages, de lagunes, de pins grêles, de landes, où à la fin de l'hiver, les brebis ont la couleur de la cendre. Les meilleures familles de Saint-Clair sont issues de ce quartier perdu. Vers le milieu du dernier siècle, alors que la résine et le bois commencèrent d'ajouter aux maigres ressources qu'ils tiraient de leurs troupeaux, les grands-pères de ceux qui vivent aujourd'hui s'établirent à Saint-Clair et leur logis d'Argelouze devint des métairies. Les poutres sculptées de l'auvent, parfois une cheminée en marbre, témoignent de leur ancienne dignité. Elles se tassent un peu plus chaque année, et la grande aile fatiguée d'un de leurs toits touche presque la terre. Deux de ces vieilles demeures pourtant sont encore des métairies de maîtres. Les Larocque et les d'Esquerou ont laissé leur logis d'Argelouze tel qu'ils le reçurent de leurs ascendants. Jérôme Larocque, maire et conseiller général, et qui avait aux portes de cette sous-préfecture sa résidence principale, ne voulut rien changer à ce domaine d'Argelouze, qui lui venait de sa femme, morte en couche alors que Thérèse était encore au berceau, et où il ne s'étonnait pas que la jeune fille eût le goût de passer les vacances. Elle s'y installait dès juillet, sous la garde d'une sœur aînée de son père, tante Clara, vieille fille sourde qui aimait aussi cette solitude, parce qu'elle n'y voyait pas, disait-elle, les lèvres des autres remuées, et qu'elle savait qu'on n'y pouvait rien entendre que le vent dans les pins. M. Larocque se félicitait qu'Argelouse, qui le débarrassait de sa fille, la rapprochait de ce Bernard d'Esquerou, qu'elle devait épouser, un jour, selon le vœu des deux familles, et bien que leur accord n'eût pas un caractère officiel. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.